RMC. L'After Foot, Louis Amar.
Bonsoir à tous, l'After en direct sur RMC et RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à minuit pour revenir sur la belle entame de l'équipe de France féminine à sa Coupe du Monde. Victoire 4-0 en match d'ouverture face à la Corée du Sud. On se projettera également sur le match des garçons demain soir en Turquie, match pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Et puis il y aura également toutes les infos du jour et notamment l'officialisation de la signature d'Eden Hazard au Real Madrid pour débattre avec vous ce soir. Jonathan Macardy, salut Jonathan.
Salut les gars.
Et Ludovico Bragnac, salut Ludo.
Salut tout le monde.
On retourne au Parc des Princes où Anthony Reich nous attend. Anthony Reich avec une joueuse de l'équipe de France.
Offensivement, on
c'est a Marion Thoron
nos passes.
Qui est au micro d'Anthony.
C'était quand même un bon match. On est content de nous. Voilà, il y a encore quelques petits réglages, c'est sûr, mais on va monter crescendo.
Merci beaucoup Marion.
Merci,
on doit
vous
libérer. Félicitations.
Merci.
Et on enchaîne avec Eugénie Le Sommer, Louis. Eugénie, l'attaquante de l'équipe de France, première buteuse de ce mondial. Eugénie, une victoire et une soirée parfaite ce soir.
Oui, c'est ça, une soirée parfaite avec un gros score. On voulait marquer le coup, on voulait bien débuter ce match et c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, on emmagasine de la confiance pour la suite du tournoi.
La préparation à titre personnel a été un petit peu difficile pour vous. Il y a eu cette blessure au muscle fessier. On ne vous avait pas revu sur le terrain en fait depuis la finale de Ligue des Champions. On imagine que ce soir, ça vous a rassuré de jouer, d'être sur le terrain, de ne plus avoir de douleur.
Oui, forcément, c'était important pour moi de jouer ce premier match et ça n'a pas été facile après ma blessure psychologiquement de se dire que fallait encore travailler et voilà, j'ai travaillé toute une semaine toute seule avec le préparateur physique pour être prête aujourd'hui et aujourd'hui je suis contente d'avoir pu débuter le match.
Vous n'en êtes pas à votre première Coupe du Monde, mais là, qu'est-ce que ça fait ce soir de rentrer dans le parc comble, une Marseillaise incroyable, une ambiance exceptionnelle pendant ce premier match d'ouverture.
Une fierté immense de jouer devant tout ce public qui était derrière nous et le public a été formidable et nous a poussé et je crois aussi que c'est grâce à eux qu'on a fait une grosse performance ce soir. Et voilà, c'est formidable et j'espère que ça va continuer comme ça.
Sur le plan de l'efficacité, c'est aussi très bon. 4 buts, 4 beaux buts. Ça aussi, c'est un point positif. Vous frappez les esprits ce soir en vue de la suite de cette compétition.
Oui, c'est vrai que c'est un gros score et je dirais même qu'on aurait pu en marquer plus. On s'est procuré beaucoup d'occasions, mais voilà, c'est bien de repartir avec 4 buts ce soir. Et comme je disais, on a marqué le coup et on débute bien cette compétition. C'était hyper important pour nous à la maison d'engranger de la confiance et voilà, toute l'équipe a été formidable et c'est une belle soirée pour nous ce soir, même s'il faut pas s'enflammer, c'est pas fini et il va falloir aller chercher les deux autres matchs de poule, aller avec le même sérieux, la même envie et la même détermination.
J'ai vu une petite célébration qu'on n'avait jamais vue tout ensemble. Racontez-nous, c'est qui qui l'a créée cette célébration? Elle vient d'où?
C'est tout le groupe qui a eu cette idée et voilà, c'était un petit clin d'œil aux réseaux sociaux et voilà, c'est swipe up. Donc voilà, c'est tendance et on avait envie de faire un truc tout ensemble. Donc voilà pourquoi.
Merci beaucoup Eugénie et félicitations.
Merci beaucoup Anthony Reich en direct du Parc des Princes. Anthony, est-ce qu'il y a encore des joueuses autour de toi?
Non, ça y est, là on a eu Marion Thoron, Wendy Renard pendant la pause publicitaire.
On la réécoutera tout à l'heure.
Qu'on réécoutera tout à l'heure, qui était très émue. Marion Thoron aussi également, qui était presque encore en train d'avoir des larmes en me parlant de cette Marseillaise qui l'a énormément émue. Il y avait son papa dans les tribunes, c'est pour ça.
Merci beaucoup Anthony Reich et bonne soirée à toi. 23h13 sur RMC, RMC Sport News. On est dans l'after avec Ludovico Bragnac et Jonathan Macardy pour revenir donc sur cette victoire de l'équipe de France féminine 4-0 face à la Corée du Sud. 2 buts de Wendy Renard, 1 de Jeannie Le Sommer, 1 d'Amandine Henry. On appelle ça comment les gars? Un match parfait, Jonathan?
Un très bon début, début qui était sérieux, qui était appliqué. Après, franchement, le niveau de la Corée, c'était très faible, y a pas à dire. C'était une équipe, voilà, qui, à mon sens, va sortir assez rapidement. Mais l'équipe de France a été sérieuse. J'ai trouvé qu'ils avaient bien été en gestion, elles avaient bien été en gestion en seconde mi-temps. Après, je pense qu'il y a deux, trois petits trucs à corriger quand le niveau de la compétition va augmenter. Notamment, en première mi-temps, t'avais l'impression que le côté gauche était totalement déserté avec Eugénie Le Sommer, qu'on n'a pas trop vu, alors que c'est censé être une des fers de lance de la ligne d'attaque de l'équipe de France. Mais voilà, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner au prochain match. Je pense qu'il faut que Gauvin, arrête d'arriver en retard à l'entraînement parce que on va pas trop lui taper dessus, mais Diani, c'est pas forcément ça dans l'axe, mais il y a des choses à faire. Et voilà, sérieux, appliqué, gestion, une entrée en compétition assez sereine.
On va revenir évidemment sur ce choix de Corinne Diacre de ne pas aligner Valérie Gauvin parce que c'est un choix fort de la sélectionneuse de l'équipe de France. D'abord, ton avis sur ce match, Ludo?
Bah pareil que Jonathan, les Bleus sont elles se sont mises sur de bons rails. Elles ont attaqué le match comme il le fallait. Et comme le disait Lionel il y a quelques instants, il y a du stress lié à l'importance de la compétition et aussi le fait que ça soit à domicile. Donc c'est une belle entrée en matière. Je les ai trouvées très impliquées. Elles ont attaqué le match comme il le fallait. Elles ont transformé cette peur justement en allant de l'avant tout de suite. Cela a été impulsé par la capitaine Amandine Henry. Donc ouais. Voilà, c'est vrai que la Corée était pas d'un grand niveau ce soir, mais du coup à l'image de ce qu'avaient pu faire les Bleus en 98, ça donne de la confiance. Les buteuses ont marqué, notamment Jenny Le Sommer. Et puis le doublé de Wendy Renard, pareil, ça donne de la confiance parce que les coups de pied arrêtés, mine de rien, ah bah ouais. On voit qu'elles ont l'avantage sur le plan physique, donc ça sera une
vraie, bien frappé.
Ça sera une vraie arme pour le reste de la compétition.
Vous êtes extrêmement nombreux, je sais pas ce que vous en pensez, Ludo et Jonathan, mais vous êtes très nombreux sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio tout au long de la soirée, à nous avoir écrit pour signaler la qualité des coups de pied arrêtés.
Oui.
Et pour la regretter aussi en Ligue 1 notamment.
Oui, oui, c'est vrai que c'était bien tiré. Après, en plus, t'as Wendy Renard qui fait quand même deux têtes de plus que n'importe quel autre joueur qui sera en face. Donc c'est une arme importante. Après, je trouve qu'il y a deux joueuses qui a à ressortir, je pense, dans ce match-là, ouais. Qui ont peut-être été un petit peu discrètes, mais qui à mon sens ont été hyper importantes. C'est Amandine Henry et Boussaglia au milieu de terrain. En deuxième mi-temps, je les ai trouvées très intelligentes. Elles ont su mettre le pied sur le ballon pour être tout en gestion. Et je trouve que c'est deux joueurs qui ont un QI foot assez élevé.
Amandine Henry, c'est la tôle.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le duo avec Boussaglia que je trouvais.
Mais c'est elle qui impulse dans les premières minutes le fait d'aller de l'avant, d'aller presser. Ils ont récupéré des ballons hauts dans le camp adverse très rapidement.
Ouais.
C'est ce qui leur a permis de trouver de la confiance et d'ouvrir le score assez rapidement aussi. Donc non, cette joueuse est vraiment brillante. Alors en plus, elle a cette capacité à pouvoir se projeter vers l'avant,
ouais, ouais.
Et elle est récompensée d'un joli.
Elle a une sacrée caisse. Hein. Elle a une sacrée caisse.
Pierre est avec nous. Il a composé le 32-16 supporter de l'équipe de France. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue
dans l'after.
Salut Pierre.
Bonsoir à Louis.
On t'écoute.
Ouais, je suis complètement en raccord avec vous. Clairement, cette équipe de France, elle fait un super début de mondial. Moi, je suis pas surpris. Grand amateur de foot, je suis le foot féminin parce que c'est une variante. C'est notre sport. On est tous foot. Donc moi je suis le foot féminin depuis un petit moment, avec un peu de chance. À une époque, j'avais un contrat de fournisseur d'accès internet et télé, notamment qui me permettait de suivre OLTV et c'était les premiers à diffuser du foot. Donc moi, ça fait un moment que je suis ça. Clairement, il y a un bond en avant qui est fait depuis quelques années techniquement. Enfin, moi là, devant ce match aujourd'hui, j'ai vu une équipe de France appliquée comme j'ai pu la voir avec Léa. J'ai vu des positionnements du milieu de terrain, de la défense, de l'attaque. Très 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 précise et ouais c'est une super rentrée, c'est une super façon de rentrer dans la Coupe du Monde et moi je suis très fan de ces Bleus là et j'espère qu'elles iront vraiment très très loin quoi.
On parlait beaucoup avant le match de cette pression à dépasser, de cet environnement à maîtriser. Un match à domicile, dans une compétition à domicile, c'est peut-être ça finalement leur plus grande réussite ce soir, Ludo.
Ouais, mais je crois qu'il y a des joueuses qui ont vécu les échecs des anciennes compétitions, qui justement cadrent justement les nouvelles arrivées. Et je trouve qu'il y a une certaine complémentarité dans cette équipe à tous les postes, que ça soit la défense centrale, que ça soit sur les côtés,
ça s'est moins vu
sur le côté gauche.
Mais le côté droit, c'était super.
Ça viendra probablement. Elles ont su exploiter les faiblesses de l'équipe adverse. C'était notamment le côté gauche de l'équipe adverse, où elles ont appuyé fortement dessus avec la petite Torrent là, qui est une boule de nerf et qui, oui.
Et qui
avec Cascarino
super centre, hein, Marion Torrent.
On ouais, très bien travaillé en tandem. Du coup, elles ont aussi su exploiter leur avantage clairement sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est une équipe intelligente et notamment tu en parlais au milieu où justement les deux métronomes, les deux régulateurs, c'est Boussaglia et Amandine Henry qui arrivent justement à gérer le tempo du match. Et je dirais qu'elles ont plutôt bien géré dans l'ensemble.
Ouais, Jonathan.
Non mais c'est juste une remarque comme ça, mais je trouve que c'est quand même chouette qu'on parle de l'équipe de France. On parle de ce qui se passe sur le terrain parce que franchement le contexte, tout ce qui s'est passé avant, c'était vraiment chiant quoi. Les débats
de balles. Ah, tu veux dire ce qu'on a entendu ces derniers jours.
Ouais, non mais les débats de balles entre les hystériques féministes clichés qui te racontent saucisse sur saucisse et les mecs qui font la même chose mais dans le sens inverse. Ouais. Franchement, c'est insupportable. Et là, on a vu un match qui est.
C'est pas beau pour Fred Hermel.
Non, monsieur, je visais même pas Fred. Mais des deux côtés, t'as les hystériques féministes et les machistes totalement rétrogrades qui racontent n'importe quoi. Là, on a vu un match qui était intéressant. On demande pas à tout le monde de s'intéresser au foot féminin. ça c'est un choix, t'as le droit de pas regarder, ça veut pas dire que t'aimes pas le foot, mais en tout cas ce qu'on a vu, c'était un match qui était sérieux, un bon match, et franchement ça avait pas grand chose à envier à certains matchs qu'on commente en Ligue 1. Donc ça c'était vraiment à dire
mais c'est pas la peine de comparer, c'est-à-dire que tu peux prendre du plaisir à regarder le foot masculin et tu pars de principe que le foot féminin est totalement différent, il y a pas de comparaison.
Non mais exactement,
à faire, tu veux,
mais je suis totalement d'accord Ludo.
Et puis l'engouement qu'il y avait au parc ce soir quand même, c'est à noter aussi, parce on savait pas à quoi s'attendre finalement, hein. Heureusement l'opération communication était plutôt réussie du côté de la Fédé. Je trouve que les filles ont été mises en valeur quelques semaines, quelques mois avant la compétition. Elles ont aussi assuré le coup dans les matchs amicaux qui ont précédé cette Coupe du Monde, en battant les États-Unis, en battant le Brésil. C'est une équipe qui est brillante, même si elle a pas encore gagné de titre majeur. C'est une équipe qui a les armes pour aller pour aller au bout. Après, l'engouement dépendra aussi de leur capacité à aller loin dans la compétition.
Dans un instant, on évoque le choix fort de Corinne Diacre ce soir, qui s'est passé de son attaquante Valérie Gauvin en début de match pour un retard à l'entraînement. J'ai envie de vous demander les gars si c'était pour vous un choix justifié. Mais d'abord on écoute Élise Bussaglia, c'était en zone mixte il y a quelques instants.
On est consciente qu'on n'a rien gagné et que le chemin il va être très long. C'est que un match, donc on a pris 3 points ce soir, c'est très bien, on a marqué 4 buts, c'est très bien aussi. Maintenant, je pense qu'on a le droit aussi de profiter un petit peu. On a fait une grosse préparation, ça fait plusieurs mois qu'on travaille aussi pour préparer cette Coupe du Monde. Donc voilà, on a le droit aussi de savourer et de profiter ce soir avec le public.
La milieu de terrain française Élise Bussaglia, il y a quelques instants. Valérie Gauvin, l'attaquante des Bleus, n'était donc pas titulaire ce soir, conséquence d'un retard à l'entraînement cette semaine, retard sanctionné par Corinne Diacre. Deux retards, tu as raison, deux retards dans la semaine, absolument Jonathan. Pas de débat, c'était la décision logique qu'il fallait prendre pour vous les gars.
Moi ce que j'aime bien chez Corinne Diacre, c'est que j'ai l'impression que ça rigole pas avec elle. Elle est un peu, elle est rigide, elle est stricte, il y a des règles, et je suis désolé, je veux pas faire le vieux réac, mais quand tu t'arrives en retard en entraînement, tu joues pas, ça me semble totalement logique. Et j'ai trouvé qu'elle a quand même fait preuve d'une certaine psychologie en la faisant rentrer, alors que la suite logique, ça aurait été de continuer de la punir, de la laisser sur le banc.
Là, elle a peut-être senti qu'elle allait la perdre.
Elle a dit, ok, bon, elle a compris, parce qu'apparemment, elle tirait la tronche avant le match. Elle a vu que sa joueuse n'était pas, voilà, fallait peut-être la garder quand même un petit peu sous tension, lui donner une petite caresse. Elle l'a fait rentrer très bien. Et je trouve que la gestion est hyper intelligente. Après, Gauvin, attention, elle a quand même des responsabilités dans cette équipe, parce que, au poste de numéro 9, c'est le meilleur atout.
Il semblait qu'on avait prouvé deux fois qu'on pouvait être champion du monde avec un neuf qui marque pas.
Non, mais elle est quand même hyper importante parce que c'est la joueuse qui doit débuter les matchs au poste de numéro 9. Donc attention à elle, il faut qu'elle fasse preuve de discipline. Elle est importante pour l'équipe de France et j'espère l'avoir lors du prochain match et que pas de retard cette semaine.
Ludo, c'est un signal aussi envoyé au reste du groupe de mettre Gauvin sur le banc.
Pas de passe droit, pas de privilégié et puis pas d'état d'âme parce qu'elle est rentrée correctement dans son match. La semaine qui précède une Coupe du Monde, tu peux pas te permettre d'arriver deux fois en retard à l'entraînement. Ça veut dire que psychologiquement, t'es pas prête à rentrer dans la compétition. Et ça, Corinne Diacre, elle a sûrement dû le sentir. Et puis le respect par rapport au groupe. Pourquoi les autres, elles seraient à l'heure et pas elle? Donc c'est une sage décision de sa part. Ça a le mérite de remettre les choses à plat. Et puis ça peut mettre un coup de pied aux fesses aussi à Gauvin pour la suite de la compétition. Moi, il y a le seul accro au vu de ce match, c'est le poste de numéro 9 pour moi, et je regrette l'absence vraiment de Katoto. Alors peut-être pas en tant que titulaire, mais je me dis que pour la suite de la compétition, ça aurait pu être un plan B plutôt intéressant. Alors après, on a dit plein de choses, elle est pas prête, elle est trop jeune, elle est trop timide, elle est trop ci, elle est trop ça. Honnêtement, je l'ai vu évoluer pas mal de fois cette saison, parce que moi j'ai suivi quelques fois le LOSC, les féminines du LOSC. Je pense que ça aurait pu être un plan B plutôt intéressant et qu'elle aurait pu apporter aussi peut-être dans la suite de la compétition sa pierre à l'édifice.
On remercie Pierre justement d'avoir été avec nous.
Merci Pierre,
salut Pierre. Et d'avoir appelé le 32-16. Et on accueille Abdel qui lui succède. Salut Abdel.
Oui, bonsoir, excusez-moi, je m'arrête. Voilà.
On conduit pas et on appelle pas, mon gars.
Ah oui,
faut pas avoir ton accident.
La police nous écoute, Abdel, fais attention à toi.
Oui, alors bienvenue en fait, je voulais intervenir par rapport au super jeu pratiqué par l'équipe féminine, et notamment sur deux points précis, sur les combinaisons, sur
les coups de pied arrêtés.
J'ai trouvé ça magnifique.
Très bien travaillé.
Tout à l'heure, on voulait faire des comparaisons par rapport aux hommes. Et je regarde tout le temps des matchs, très souvent des matchs. je vois pas ces combinaisons. Bon, c'est vrai qu'elles ont été mal finies, très souvent mal finies dans, chez les femmes ce soir. Mais l'idée de début était magnifique.
Abdel, quoi. Abdel, je te coupe, mais attention. Fait. Parce que là, c'est le premier match qu'on débrief dans l'after sur la Coupe du Monde féminine. Attention, il y a quelque chose, j'espère que personne d'entre nous ne le fera, c'est de tomber dans, tu vois, dans l'excès. Et l'excès, c'est quoi? C'est de dire, ah, mais oui, c'est génial, chez les hommes, on voit pas. Non, c'est pas vrai. Chez les hommes aussi, on voit des coups de pied qui sont super bien, des coups de pied arrêtés qui sont super bien tirés. Non. Cette comparaison, faut pas la faire parce qu'elle est caduque. Et au contraire, de vouloir trop mettre en avant le foot féminin comme ça, ça le dévalue. Mais je te laisse poursuivre, mon ami.
Non, mais moi, après, bien sûr, il y a des, peut-être des points négatifs, mais après on peut être agréablement surpris et ressortir ce
vu sous cet angle, tout à fait, je te rejoins à 100% Abdel.
Et après moi l'autre point précis, le deuxième point, c'était la qualité des centres.
Ouais.
Vous l'avez dit et effectivement.
Ah, Torrent, elle est pas mal, hein.
Et pareil, moi je me souviens de certains joueurs de certains latéraux en équipe de France.
Arrête Abdel, compare pas. Compare
oui,
pas,
mais quand même,
ça sert à rien.
Oui,
parce que si on commence à faire ça, on a un mois d'une compétition qui va être super intéressante. Je te jure qu'on va, on va dévier du cœur du débat, qui est de parler des performances de ces joueuses-là en tant que telles. Arrêtons de faire ces comparaisons-là, ça ne sert à rien.
Merci beaucoup Abdel d'avoir été avec nous dans l'after, d'avoir appelé le
316.
À très bientôt sur RMC. Je vous livre quand même comme ça deux réflexions qui nous arrivent sur Direct Studio. Une première de Daoud qui va te plaire, Jonathan. J'ai vu plus de combinaisons ce soir sur coup de pied arrêté que pendant toute la saison avec Garcia. Voilà, je crois que le message est passé. Voilà.
Ça, là, c'est pas
oui, je t'avais dit. Et puis Nicolas, pour équilibrer, oui. Nicolas qui nous écrit Corinne Diacre, c'est la poigne qu'il faudrait dans le vestiaire du PSG.
Ouais. Écoute, en tout cas.
Ça t'inspire moins que Garcia.
Moi, ce que je te dis, c'est que Torrent, elle a un peu dit Rocky Sakai en elle parce qu'elle était très forte.
Oui, c'est vrai, on peut dire Rocky Sakai. Fallait le voir.
Non, franchement, c'est.
Allez.
Et attends, juste pour finir sur.
En un mot, Jonathan Delabour.
Et j'ai trouvé que Majerie, par rapport à ce qu'on peut l'avoir fait en club, elle était un peu en dessous et elle aussi, elle a une super patte sur les. Voilà. Mais sur les côtés, il y a deux latérales qui sont vraiment très 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 très
forts. Prochain match de l'équipe de France féminine dans cette Coupe du Monde, c'est mercredi 21h face à la Norvège à Nice. Et ça sera en direct en intégralité sur RMC. 23h27 dans un instant. Hazard au Real dans l'after. A tout de suite.
RMC, l'after foot, Louis Amar.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, l'after est là jusqu'à minuit en direct sur RMC et RMC Sport News. Oui, Jonathan.
Oui, t'as oublié l'information principale de la soirée.
Oula, tu m'inquiètes.
Irlande garde la tête du groupe D après son match nul face au Danemark partout. Avec un but de Shane Duffy qui est un peu un symbole pour notre équipe, qui a joué quand il était en jeune en équipe d'Irlande du Nord et qui là joue pour l'air, ce qui est quand même une décision hautement symbolique. Donc voilà, moi je suis très fier de l'Irlande, première du groupe D.
Bravo, l'Irlande qui fait match nul un partout au Danemark. Je vous signale également la victoire de l'Espagne 4-1 aux îles Féroé. L'Espagne, c'est un match de qualification à l'Euro 2020. On en parle dans quelques instants avec Fred Hermel. On parlera également de la signature, c'est officiel depuis ce soir, d'Eden Hazard au Real. Mais ne t'en déplaise, Jonathan, l'information de la soirée, c'est quand même la victoire de notre équipe de France féminine face à la Corée du Sud en ouverture du mondial. C'était au Parc des Princes, victoire 4-0, début d'Amandine Henry, de Jenny Le Sommer et un doublé de Wendy Renard. Écoutez la réaction de Gaëtan Tinet.
C'est incroyable. Même à la fin du match, les gens restent, ils partagent avec nous. C'est top. C'est extraordinaire à vivre, mais pour que ça soit beau, il faut aller au bout. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est profiter un petit peu et puis beaucoup récupérer pour être prête et encore meilleure contre la Norvège.
Gaëtan Tinet, la suite de cette Coupe du Monde féminine, c'est demain. Avec trois matchs, Allemagne-Chine à 15h, Espagne-Afrique du Sud à 18h, Norvège-Nigeria, c'est dans le groupe de la France, à 21h. Prochain match des Bleus, mercredi, 21h à Nice. Ça sera en direct en intégralité sur RMC. Ça sera le gros morceau de ce groupe, puisque ça sera face à la Norvège. Fred Hermel est là. Salut Fredo.
Salut Fredo.
En direct de Madrid, Fred Hermel.
Comment qu'ils vont?
Ils vont bien.
Alors je précise.
Pourquoi tu irais pas, Fred?
Non, je demande comme ça. Je demande, je dis aux jeunes auditeurs qu'on dit pas comment qu'ils vont, hein. C'est une manière un peu drôle, hein, attention. En ce moment, faut faire gaffe à tout ce qu'on dit.
Mais maintenant, on peut le dire. Ça y est, c'est bon, Fred. On peut le dire. Eden Hazard est au Real. Plus besoin de conditionnel.
Très belle transition.
Je fais ce que je peux.
Ah, c'est pas mal. Franchement, je vais pas vous cacher que je suis très content d'avoir dans ma ville Que ce soit au Real ou à l'Atlético, dans ce cas le Real, donc à 10 minutes à pied de chez moi, l'un des meilleurs joueurs du monde, ouais, qui a fait quand même aujourd'hui dans sa maturité absolue. C'est vrai que le Real dernièrement était plutôt misé sur des jeunes. Là, il y a un joueur qui est effectif dans tout de suite, qui va pouvoir être rentabilisé tout de suite au niveau de l'émotion, au niveau du jeu, au niveau de l'efficacité. Alors, a priori 88 millions de livres, ce qui fait au cours d'aujourd'hui 99 millions d'euros plus
bonus.
C'est
vraiment pour pas faire ça.
Ouais. C'est maintenant plus bonus. Alors c'est cher quand même pour un joueur qui termine le contrat dans un an.
Oui, c'est vrai.
Et quand tu vois que les Anglais mettent 90 millions sur
ils
un gardien.
Ils ont du pognon le Real.
Ils ont besoin d'un grand joueur. Ouais. Voilà. Et là, on peut dire c'est en plus sincèrement
attention Fred, attention. C'est un super coup, il y a pas à dire, c'est le joueur qu'il fallait au Real Madrid. Maintenant, Eden Hazard, tout Eden Hazard qu'il est, et il a un potentiel, il a des qualités qui sont vraiment extraordinaires. Moi, j'attends à ce qu'il passe le dernier cap qu'il n'a pas encore passé.
Parce que pour l'instant, c'est pour ça qu'il est en
Ligue des Champions, on en a pas encore vu.
Mais le cap, il le passe pas parce que autour de lui, c'est pas assez talentueux. Chelsea, il a porté cette équipe depuis 4-5 ans.
Il
a fini pour moi et c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est pas Modric, c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde.
Non.
Eh ben je te le dis, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est lui.
Je suis pas d'accord, mais ça, je peux comprendre ton point.
C'est lui. Certes, il fait pas la finale, mais je l'ai trouvé meilleur que Modric sur la finale. Bon, après c'est deux styles différents, mais pour moi, il est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il part en laissant Chelsea encore un titre d'Europa League où il met encore un doublé. Il a porté cette équipe pendant tant d'années. Je suis d'accord avec toi sur le fait. Mais lui, ça l'intéresse pas. Ballon d'or, tout ça l'intéresse pas.
Non, je te parle
lui, ce qu'il veut, c'est gagner une Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse.
Il vient dans le bon club, quoi, non?
Lui, Ballon d'Or, machin, il s'en fout.
Sincèrement.
Il est tombé dans le bon club pour la gagner, Fred.
Réponds juste à lui dans deux mots.
Ouais, mais sinon, vous faites le débat sans moi, ça va pas être de m'appeler, les gars. Non, mais je veux dire, vous êtes gentil. Non, mais sérieux, si vous voulez pas les infos.
Je réponds à Ludo, 30 secondes. La seule chose que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec Ludo, mais j'attends quand même à ce qu'il passe le dernier cap qui lui manque, parce qu'en Ligue des Champions, des matchs références, il y en a pas eu tant que ça pour l'instant. Voilà,
Fred, à toi.
Voilà. Enfin.
T'es content?
Mais sérieux, mais faut, c'est pas la peine de m'appeler si c'est pas vraiment.
Oh, t'es arrête.
Non, mais sérieux. Sérieux.
On est heureux de t'avoir. Vas-y,
on t'écoute.
Il y a 9 ans, Zinedine Zidane, alors qu'on sait du président Pérez, avait recommandé un certain Varane. Il avait aussi recommandé un certain Eden Hazard qui joue au LOSC en disant ce petit gars va aller très loin. Cette même année, il avait donné une interview au journal Marca pour dire, le crack, comme on dit en espagnol, du futur, c'est un jeune belge du LOS qui s'appelle Hazard. Donc déjà, il avait vu. Il y a 2 ans, Zidane avait essayé le recrutement. Sauf que vous vous souvenez, Hazard s'était brisé il avait une fracture à la cheville droite. Chelsea demandait beaucoup d'argent, donc ça avait été compliqué de le recruter à ce moment-là. L'été dernier, même sans Zidane, le Real était revenu à la charge. Chelsea demandait 220 millions. Le Real n'avait pas voulu payer ça. Donc, et en plus, Hazard, c'est pas quelqu'un qui, par son caractère, va au clash avec son club. Et c'est plutôt un bon signe, je pense, que qu'il soit venu au Real en plein accord avec Chelsea, sans faire d'esbrouf, sans faire de bras de fer, vraiment. Et donc il arrive dans les meilleures conditions possibles, dans un club qui a besoin d'un tel joueur. Et quand vous parliez du cap à franchir, bah ouais, moi j'aime les joueurs qui franchissent des caps au bon moment, des joueurs qui savent planifier leur carrière. Longtemps à Lille, longtemps à Chelsea et maintenant au Real Madrid. Il y a une vraie progression.
Et ouais.
28 ans, c'est l'âge auquel Zidane est arrivé au Real Madrid. Resté 5 ans. Hazard vient de signer 5 ans. Et voilà, on est dans une.
Il sera dans le contexte au Real qui va lui permettre, à mon avis, de passer ce cap-là. Parce qu'à Chelsea, il était quand même la star. C'était lui qui, voilà, dans le vestiaire c'était le leader. Là, il va arriver dans un vestiaire.
Il était pas aussi bien entouré.
Exactement. Mais là, il va arriver dans un vestiaire où il y a des fortes personnalités. Et je pense que ça va le forcer à être peut-être plus sérieux à l'entraînement, c'est que c'est un joueur qui, voilà, c'est pas le plus gros travailleur non plus, mais je pense que dans le contexte là, avec ce vestiaire là, avec cet entraîneur là, ça va bien filer.
Non, mais c'est ça qui va révolutionner sa mentalité.
Je pense.
C'est de travailler avec Zidane, c'est-à-dire que il va l'amener sans qu'il s'en rende compte, parce que lui, il aime pas les choses trop brutes, trop carrées, trop rigides. Donc sans qu'il s'en rende compte, avec Pintus, si je dis pas de bêtises, Fred, ils vont l'accompagner comme tous les autres, tout doucement, et puis sans s'en rendre compte, il va passer des étapes sur le plan physique, mais ça va vendre du rêve, ça va briser des reins.
Et puis c'est un joueur Liga, hein.
Ah oui,
franchement.
Oui, oui,
oui. Et en plus, il a quelque chose qu'on aime bien du côté du Real Madrid, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on aime bien les joueurs très techniques du côté du Real, mais on aime bien aussi ces types qui, quand on voit le train inférieur qu'il a, la puissance.
Ouais. Et avec Pinjus, ça va se développer encore plus parce que moi, je l'ai vu qu'une seule saison à l'Olympique de Marseille, mais les joueurs, le cap physique qu'ils avaient franchi avec lui était assez impressionnant.
Mais au-delà de prendre un très bon joueur qui va t'amener probablement énormément de choses, c'est pas une diva, Eden.
Non.
Tu peux l'associer. Ah, non. Tu peux l'associer à plein de mecs. Il a pas un ego surdimensionné. Quand il faudra faire la passe à Benzema ou autre, il la fera.
Oui,
tu vois, c'est un joueur qui rentre parfaitement dans le moule. Non, il s'en fout.
Ouais, voilà.
Il s'en fout royalement.
Très bien.
Fred, c'est ce qui marche au Real. En plus, il y a dans le madridisme, ce qu'on appelle ici le madridisme, c'est-à-dire les fans du Real Madrid, une vraie attente. Ça fait tellement longtemps qu'on parle d'Hazard que, par exemple, les gens ici ont regardé la finale de la Ligue Europa.
Ils étaient pour Chelsea.
C'est notre joueur. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est déjà adopté, quoi. Il suffit qu'il apprenne 2-3 mots d'espagnol. D'ailleurs, sur RMC Sport, le soir de la finale de la Ligue Europa, il avait terminé son intervention en disant gracias en espagnol. Ça avait beaucoup plus, ça.
Ça va jouer comment alors?
Voilà.
Vends-nous du rêve. Ça va jouer comment? Qui va arriver? Comment ça va s'organiser devant? Parce que il y a quand même du matos.
Ils ne savent toujours pas. Tout ce que je peux vous dire, et ça je le sais de source très sûre, c'est que le Real ne va plus jouer en 4-3-3 ni en 4-4-2 en losange. Ils vont évoluer. Le système va évoluer et ça va dépendre des autres arrivées.
Est-ce que ça met un terme, Fred, l'arrivée d'Eden? Est-ce que ça met un terme à la rumeur Neymar, Mbappé, tout ça, ou?
Ah non, Mbappé reste l'objectif principal du gros coup.
D'accord. Voilà.
Parce qu'Hazard est considéré comme un excellent joueur, mais c'est pas une star mondiale. Il y a que quatre grandes stars.
Donc tu jouerais, si tu me parles d'un 4-4-2. Si tu me parles d'un 4-4-2, ouais. Tu associerais...
Je te dis que le 4-4-2 en losange et le 4-3-3, qui sont les deux systèmes utilisés par Zidane ces dernières années, ils ont décidé de changer. Mais après, ça va s'adapter.
Ils vont changer les
méthodes d'entraînement. Ils vont changer beaucoup de choses. Parce qu'en revenant, ils vont mettre en place des choses nouvelles aussi pour que les joueurs qui ont vécu les 2 ans et demi de Zidane apprennent des choses nouvelles.
Il va falloir dégraisser devant le secteur offensif, il est plein. Quels joueurs sont le plus sur le départ?
Ah bah c'est bien sûr, c'est simple.
À part Bale,
il y en a beaucoup. Bale, Isco,
d'accord.
Mariano,
Asensio,
Ceballos, Asensio va rester.
Ok.
Parce que Zidane veut encore lui laisser une chance.
Ceballos c'est plus mieux de terrain relayeur.
Ouais, mieux, ouais. Mais lui, c'est sûr qu'il s'en va. Il n'en veut plus.
C'est dommage, c'est un beau joueur.
Reguilón va être prêté parce que la doublure et plus ses affinités de Marcelo va être Fernand Mendy. Ça va se faire, c'est quasiment sûr. Enfin, c'est sûr que ça va se faire, c'est quasiment fait. Il reste 2-3 petits trucs à régler et des petits compléments d'examens médicaux. Ça commence à avoir de la gueule parce que nous ne sommes que début juin. Le mercato se termine à la fin août.
Mais ça, c'était la volonté de Zidane d'avoir tout son groupe à la reprise.
Moi, ce que j'attends, c'est la recrue au milieu de terrain.
Oui. Ah ben, alors,
Zidane
ne veut pas d'Eriksen. Il n'en démord pas, il veut Pogba, mais c'est très compliqué, toujours à cause de Mino Raiola, l'agent, et toujours à cause des prétentions financières excessives, selon le Real, de Paul Pogba.
Et ça,
Zidane veut encore Pogba.
Tout le temps d'en reparler dans les prochaines semaines. Il y avait un match quand même, Fred, ce soir, qui te concernait, le match de la sélection espagnole, qui s'est imposé 4-1 aux îles Féroé. C'était comment?
Eh ben, franchement, c'était pas si mal.
D'accord.
Mais vraiment. Mais vous savez pourquoi? Parce que parfois il faut mieux un bon terrain synthétique qu'un terrain pourri. Et le terrain synthétique.
C'est ça pour le match de l'after de lundi, ça.
Ah bah, oui, voilà, exactement. Oh non, moi je suis nul.
Alors?
Ah mais moi je suis nul. Tu sais à l'école quand on faisait chou-fleur. Et ben à la fin il y a toujours. Père Mel, on l'a déjà eu. Voilà, c'est ma vie. Mais j'ai pris ma revanche depuis. Puisque je suis à l'antenne avec vous, vous imaginez. c'était pas trop mal. On a vu une équipe d'Espagne. Alors, il y a plus de grandes stars, dans cette équipe. Voilà, on est dans une période creuse, mais qui a fait le boulot, qui est intéressante. Les îles Féroé, franchement, par rapport au match que j'ai, il y a quelques années, c'est pas magnifique, mais c'est correct. C'est-à-dire, ça respecte les bases du football. Ils ont même marqué un but sur une erreur défensive de l'Espagne. Franchement, c'était très correct. Vraiment, c'est victoire 4-1. Et quand on regarde ce groupe, surtout après le match nul entre la Norvège et la Roumanie, l'Espagne a 9 points, la Suède a 7 points, Roumanie 4, Malte 3, Norvège 2. Bon, et lundi, en direct sur RMC. Je serai à Bernabéu pour l'Espagne-Suède. Bon, bah, c'est quasiment la qualification qui joue alors qu'on a fait que la moitié, quoi. Donc, puisque, comme on le sait, les deux premiers sont qualifiés. Donc, l'Espagne... Alors, on va dire aussi, sans Luis Enrique, parce que beaucoup de gens le demandent, pourquoi Luis Enrique n'est pas sur le banc. Je sais pas si vous avez remarqué ça.
Dis-nous.
En fait, il n'était pas là au match contre Malte. Il n'était pas là aux préparations de ce match. Il ne sera pas là au match contre la Suède. Il est toujours dans un grand problème, gros grave problème familial, qui fait que il dirige depuis chez lui la sélection. Et c'est Robert idéal, Moreno, ouais. son adjoint, qui est là, qui fait l'intérim. C'est compliqué. C'est très compliqué pour lui, et on pense pas que ça va pouvoir durer très très longtemps cette situation. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Espagne gagne.
Merci Fredo d'avoir été avec nous.
Voilà les amis.
Le nom des buteurs espagnols, Navas, Ramos, Gaia, et un but contre son camp des îles Féroé pour une victoire 4-1 de la Roja. 23h44 sur RMC, RMC Sport News. Dans un instant, l'after revient. On va parler de l'équipe de France masculine qui elle aussi joue un match qualificatif à l'Euro 2020.
La victoire de l'Irlande.
Ça sera demain à 20h45 en Turquie. C'était pas un match nul de l'Irlande?
Ah bah c'est vrai. Oui. Bon, c'est pareil. Ah, pareil. Oui, c'est à l'extérieur. Ouais. Come on you boys in green. Come on you boys in green.
Allez, à tout de suite.
RMC,
l'afterfoot, Louis Amar.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy, bienvenue si vous nous rejoignez, l'after en direct sur RMC et RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle le résultat marquant de cette soirée, la victoire de l'équipe de France féminine en match d'ouverture de la Coupe du Monde au Parc des Princes, 4-0 face à la Corée du Sud. Place demain aux garçons, ça sera un match éliminatoire pour l'Euro 2020. Pas de panique, hein, les Bleus ne sont pas condamnés à la victoire, ils sont bien dans leur groupe, les deux premiers sont qualifiés. Ça sera néanmoins difficile en Turquie, à Konya, sans doute le match le plus difficile de cette campagne de qualification, un match qu'il faudra en plus disputer sans N'Golo Kanté, qui vous le savez est blessé. Information de nos envoyés spéciaux à Konya, Timothée Mémon, Arnaud Valadon, Saber Desfarges.
Oh là là, Timothée en Turquie doit faire un malheur.
Timothée et Saber
Desfarges. Alors là, planquez vos filles les amis.
À Konya, ils vont pas faire grand chose.
Planquez vos filles les amis.
Et on salue. Ouais,
t'inquiète, Timothée, il a un GPS dans la tête.
Alors, avant que Timothée, Arnaud et Saber n'aillent faire des folies de leur corps, ils étaient quand même à l'entraînement de l'équipe de France tout à l'heure, séance à 8 clos, au cours de laquelle Didier Deschamps a, comme on dit dans ces cas-là, brouillé les pistes. C'est-à-dire qu'il n'a pas effectué de mise en place tactique à proprement parler. Simplement, sait-on qu'il a utilisé un système à trois milieux, travaillé un système à trois milieux, donc plutôt en 4-3-3, un milieu, Ndombele, Pogba, Matuidi, changer de système pour pallier l'absence d'N'Golo Kanté. Est-ce que c'est selon vous la bonne solution?
Pourquoi pas? De toute façon, t'as pas 50 solutions si tu veux jouer en 4-3-3.
Mais est-ce qu'on est bon en 4-3-3?
Bah, ça
je suis désolé, je te pose la question directement. J'ai pas souvenir d'un gros match des Blancs.
Je l'annonce tout de suite. Ça sera un 4-3-3 pour commencer le match. Au fur et à mesure, on se rendra compte que ça sera un double pivot Ndombele, Pogba,
et Matuidi qui sera
le piston côté gauche. Après, ce que ça soulève, en tout cas, c'est qu'on a une super génération. On a même du point de vue des latéraux, on a vu le petit Dubois pointe le bout de son nez devant. On est plein. Mais au milieu de terrain, on a des super joueurs. Mais il nous manque un profil type Nzonzi de très haut niveau. C'est ce profil qu'on n'a pas.
Une sentinelle.
Une vraie sentinelle. On n'en a pas. Qui soit au niveau des autres. Qui soit au niveau d'un Pogba, au niveau d'un Matuidi, au niveau d'un Kanté. Et ça nous manque. Alors, N'Golo Kanté peut le faire. Même si c'est pas forcément son poste pur et dur. Mais, voilà. C'est le seul poste où, quand il est pas là, t'as un petit pépin.
Je suis curieux quand même de voir Tanguy Ndombele dans ce rôle-là. C'est un joueur qui a une capacité, à casser des lignes, qui a une belle qualité de passe. Est-ce qu'il a la qualité technique justement pour après dos? Moi, je le vois souvent très bon face au jeu. Est-ce que dos au jeu, voilà, il sera aussi efficace? À voir, mais pourquoi pas.
Est-ce qu'il aura la discipline et l'intelligence tactique pour justement sur les phases de transition défensive être cette sentinelle là? C'est surtout ça aussi moi qui m'inquiète un petit peu. Après voilà, on a quand même une équipe de très grande qualité, c'est un joueur de qualité, on a des milieux de terrain de qualité on doit être capable de pallier l'absence, de faire face à l'absence de N'Golo Kanté sur ce match là.
Avec
c'est pas l'Irlande en face, hein.
Avec quel attaquant de pointe il faut jouer demain en Turquie?
Ah, moi je pense qu'il faut jouer avec Olivier Giroud, Mbappé. De toute manière là, il est pas bien en ce moment. Je pense qu'il est. Tu sais, quand tu grandis très vite, parfois t'as ce qu'on appelle une crise de croissance. Et je pense quand même Kylian Mbappé là, il connaît un petit peu une sorte de petite crise de croissance. Il est sa sortie là au trophée UNFP. Il y a son avenir, même si moi je suis quasiment sûr qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Mais la question de son positionnement l'année prochaine, l'arrivée de Leonardo qui peut rabattre certaines cartes en sa faveur. J'ai l'impression qu'au niveau de l'attitude, je les trouve un petit peu nonchalants et un petit peu, tu vois, en décalage avec les autres sur le dernier match contre la Bolivie. Donc je pense que ça lui ferait du bien, tu vois, d'aller faire un petit tour sur le banc. Non pas que, enfin, lui remettre les idées en place, mais je pense surtout qu'il est épuisé. On a tendance à oublier que c'est un jeune
et qui a
enchaîné
joué
des matchs,
énormément.
Qui a beaucoup joué. Il est très 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 fort physiquement, parce que pour enchaîner autant et en étant capable d'avoir des performances de ce niveau-là physique, c'est impressionnant. Mais je pense que ça lui ferait du bien, voilà, de se reposer un petit peu.
Ludo.
Non, mais t'aurais pu aussi évoluer, tu vois, on part du principe qu'il va évoluer à trois milieux de terrain. Il aurait pu éventuellement pallier l'absence de Kanté en faisant un 4-4-2, en associant, pourquoi pas, Giroud Ben Yedder. J'aimerais bien voir cette association.
Avec Griezmann en 10 derrière eux.
Bah ouais, pourquoi pas.
Ça aurait de la gueule.
Bah ouais.
Mais là, c'était...
Donc on est Vincent Mbappé.
Là, on part sur qui devant là?
Alors, en fait, non, c'est compliqué à dire, puisque les infos qui nous sont remontées de nos envoyés spéciaux, c'est que justement, il a mélangé Didier Deschamps. La seule certitude qu'il y avait, c'était ce trio au milieu qui a travaillé ensemble. Pogba, Matuidi,
on a des latéraux qui sont capables de prendre les couloirs, qui ont un gros volume de jeu. Pourquoi pas ce système en logeant où t'as Matuidi qui peut assurer côté gauche la transition pour venir éventuellement sur le côté ou rattraper quand t'as Pogba. Ouais. Tu peux mettre Pogba à droite, tu mets Ndombele en 6, Griezmann en 10 et puis Giroud Ben Yedder devant. Ça pourrait être sympa.
Ça pourrait être, ouais, j'aimerais bien voir cette association Ben Yedder Giroud, mais je pense pas qu'il le fera. On a quasiment jamais joué à deux attaquants.
Ah oui.
Non, mais j'aimerais. C'est vrai que ça, sur le papier, en tout cas, ça donne envie. Évidemment, Kylian Mbappé doit être titulaire en équipe de France. Il y a pas de débat là-dessus. Mais
quand
sur
même.
Ce match-là, vu le contexte, voilà, moi ça.
On verra peut-être en Andorre.
Oui, mais là, je pense qu'il faut peut-être un petit peu le préserver parce que c'est un joyau, mais il faut savoir l'utiliser.
Après, attention,
Les gars.
Sais que se déplacer en Turquie, c'est jamais simple.
Voilà.
C'est pas un match amical, hein. C'est quand même un match de phase de groupe. Donc nous, on fait là. Je te parle d'une composition qui me ferait plaisir, hein. Bien évidemment. Après, l'obligation du résultat fait que tu devras aussi peut-être aligner tes meilleurs joueurs dans le but de forcer la décision assez rapidement. Parce que même si la génération turque est moins moins talentueuse, moins bonne que la précédente. Ils ont fait une phase de groupe de Ligue des Nations où ils ont perdu quasiment tous leurs matchs. Mais attention, en Turquie, tu sais jamais.
T'as dit ce qu'il fallait dire, il faut mettre tes meilleurs joueurs. Et est-ce qu'en ce moment, sur la forme du moment, sur le contexte, est-ce que le meilleur joueur, le meilleur numéro 9 de l'équipe de France, c'est pas Olivier Giroud? Moi, je pense que si.
Ouais.
C'est Olivier Giroud. Mbappé,
il est
aussi fort soit-il, je pense qu'il connaît un petit, voilà, c'est là, il est rincé de sa saison.
Donc, allez, Turquie-France, c'est demain à 20h45 et c'est à suivre évidemment en direct sur RMC. Je vous donne pour terminer quelques infos du jour rapidement. Celle-ci qui nous vient de nos confrères de l'équipe, l'Olympique Lyonnais pense à Luis Gustavo pour renforcer son milieu. Tu m'as fait
vouloir chauffer en fin de soirée. Mais alors j'espère une seule chose.
On a bien fait.
Là, si c'est vrai, parce que tant que Saber ou Momo, moi j'attends que Saber et Momo confirment l'information, parce qu'on croit, on fait confiance aux gens de chez nous.
Tout à fait.
Mais j'attends une seule chose. Ça, c'est le test pour Jacques-Henri Hérault, si c'est vrai. C'est le test. Parce que Luis Gustavo, il est adoré des supporters. Ok, il y a des bannières chez les winners et tout. Et moi, je rappelle juste une chose, c'est que Pape Diouf, quand Jean-Michel Aulas est venu et a dragué Franck Ribéry, Pape Diouf lui a fait, allez, dégage, stop.
Ouais.
Franck Ribéry, il a beau aller faire le kéké sur le JT de TF1, machin et tout, à 20h, il a pas été à Lyon. Donc j'espère que Jacques-Henri Hérault, là, il a beaucoup de choses à se faire pardonner, qui montre qu'il en a un petit peu, qui montre qu'il a la carrure d'être le président de l'Olympique de Marseille. Et si une offre de Lyon, qui est quand même le vrai rival de l'Olympique de Marseille maintenant, veut un joueur de l'OM, j'espère que Jacques-Henri Hérault sera ferme et enverra Jean-Michel Aulas et Juninho et Silvinho aller voir ailleurs, c'est tout. Mais c'est un test si c'est vrai.
Mais est-ce que c'est une bonne idée pour Lyon?
C'est une bonne idée pour Lyon.
Qui cherche une sentinelle, hein.
C'est
parce
une
que...
bonne idée pour Lyon. Luis Gustavo, certes, il a pas fait une grande saison, mais on connaît sa capacité à être. L'année d'avant, il l'a prouvé. C'est un grand numéro 6. C'est quelqu'un.
Il a un niveau pour n'importe quel club de Ligue 1, même au PSG.
Mais bien sûr. Et moi, sans aucun doute. En plus, excuse-moi du peu, mais Silvinho, Juninho, ils connaissent le bonhomme. Hein, ils le connaissent très bien.
Mais faut qu'Héro soit ferme.
Après, est-ce qu'ils sont en capacité de recevoir, on parle de 40 millions, est-ce que aujourd'hui l'OM est en capacité de
baisses pas ta culotte. Tu baisses pas ta culotte
40 millions pour Luis Gustavo?
Non mais,
je sais pas, c'est ce que j'ai entendu.
Oula. Non mais tu baisses pas ta culotte, surtout pas. Après ce qui s'est passé cette saison où l'Olympique de Marseille a été ridiculisé par son président et son entraîneur, là Jacques-Henri Hérault, il a été confirmé, et ben qu'il redonne un petit peu de fierté au club et qui montre qu'il est capable de donner de la fierté aux supporters, parce que pour l'instant, je t'assure, hein, je vous le dis là,
pour
les supporters, ce qu'ils attendent c'est ça. C'est, ils, 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 ils savent que Héro reste, mais il va falloir qu'il montre qu'il en a.
Merci Jonathan. Merci Ludo. 23
ans. Je m'énerve.
Ainsi s'achève l'after. C'était un peu fait exprès. On voulait finir comme ça parce que on savait qu'il y avait moyen avec ça.
Donne pas le résultat à l'Irlande et tu m'énerves en plus.
Un partout Danemark-Irlande. Et puis on vous rappelle la victoire de l'équipe de France féminine 4-0 face à la Corée du Sud en match d'ouverture du mondial. Passez une belle nuit sur RMC.
Salut les gars.
Pas où j'ai vu ça.
RMC Football Show. L'After Foot.